Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo. On est ensemble comme chaque vendredi, de retour en plateau. Et je suis avec Grégoire Darico, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Journaliste Radio Immo, ravi de vous retrouver.
Moi aussi.
Pour accueillir notre invité, Ludovic Delès, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le directeur général de Colliers France, un des leaders mondiaux de l'immobilier d'entreprise, présent dans 66 pays. Et justement, nous allons voir avec vous qu'est-ce que l'immobilier d'entreprise, qui cela concerne, donc les utilisateurs, les investisseurs, tous les métiers que ça englobe. Nous ferons un point aussi sur l'actualité du secteur et puis on va découvrir évidemment votre parcours. Alors il y a, Grégoire, c'est vrai que Ludovic a aussi choisi la programmation musicale.
Tout à fait.
Qu'on écoutera dans quelques instants.
Grande réflexion.
Ah oui, voilà. J'aime beaucoup d'ailleurs. Mais tout de suite, on va peut-être commencer avec votre parcours, Ludovic.
Ouais. Quel est votre parcours? C'est vrai que l'immobilier, c'est pas quelque chose qu'on enseigne à l'école. C'est pas
vrai.
Quelque chose qu'on découvre dans le parcours universitaire. Donc, comment est-ce qu'on arrive sur l'immobilier et en plus l'immobilier d'entreprise, qui est peut-être encore plus particulier dans cette vaste galaxie de l'immobilier?
Comment on y arrive? Alors, moi, de manière assez banale, par mon papa en fait. En réalité, je me destinais pas spécialement à l'immobilier. D'ailleurs, jusqu'à mes 20 ans, je savais pas trop ce que j'allais faire. J'étais pas très penché dans les études non plus. Je me cherchais un petit peu. Et puis, à un moment, mon père travaillait en fait chez un promoteur immobilier en tant que directeur financier. Et il m'a proposé, tiens, tu peux passer un stage, passer 3 jours avec le patron de la commercialisation, qui m'a accueilli fort sympathiquement. Puis là, j'ai découvert pendant 3 jours un métier assez sympa. On visitait des bureaux, on mangeait dans des bons restaurants, on voyait des clients sympas. Je me suis dit, tiens, l'immobilier, pourquoi pas? Donc ça, c'était pour l'anecdote. Et puis ensuite, quand j'ai fait un BTS, j'ai fait un stage chez eux. Et là, j'ai vraiment découvert ce que c'était. Ça m'a beaucoup plu. Et à l'issue, j'ai fait une école de commerce en alternance. Et l'alternance, au départ, je m'étais dit, tiens, j'ai envie de faire un métier un peu technique. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris ça dans la tête. Donc, je voulais commercialiser des petits robots. C'était à l'époque où ça arrivait. Donc, j'ai cherché pour commercialiser des petits robots à un stage. Personne ne me prenait parce que j'avais une formation commerciale, mais pas du tout technique. Et tout le monde disait, non, il faut être technicien, non, il faut être technicien. Puis, je me suis dit, bon, j'ai fait un stage qui était sympa il y a quelques temps à l'immobilier. Je vais essayer l'immobilier. Et là, j'ai posé candidature chez tous les gros agents de la place à l'époque. Bordet, ça s'appelait, hein, ça n'existe pas encore, c'est CBRE. Johns Lang ou Wooten, là, Socomi, Prime, etc.
Auguste Thouars.
Et là, j'avais une présentation un petit peu particulière où je montrais que j'étais plus rentable qu'un négociateur. En fait, j'avais fait un tableau en montrant les coûts, les exonérations, vous savez, qu'on a avec le contrat d'apprentissage. Puis ça a hyper bien marché, j'étais pris dans les 4.
Okay.
Et là, je me suis challengé un peu moi-même et je me suis dit, je vais prendre la boîte internationale. En plein centre de Paris, qui s'appelait Johns Lang Wooten. Pour moi, un banlieusard né dans un milieu...
Qui s'appelle JLL maintenant.
Absolument. Pour moi, pour quelqu'un de la banlieue qui est né dans un milieu polo, plutôt, on va dire, populaire et très mixité sociale, je débarquais un peu à Paris. Quand j'ai arrivé, 20 ans, ce n'est pas la première fois que je venais à Paris, mais quasiment, et je me suis lancé dans une société internationale juste à la sortie de la plus grosse crise immobilière de 93-94.
Donc on 90. Est au début des années 90 à ce
début
moment-là.
Début des années 90.
C'est vrai que c'est le moment où le marché se casse la figure.
Ah oui, il commençait un peu à remonter. Parce que j'ai commencé chez Johns Lang Wooten à l'époque, donc comme stagiaire, en 94.
D'accord.
Donc voilà en fait, et c'est ce lien familial, même si mon papa n'était pas du tout dans la commercialisation. Moi, l'aspect commercial me plaisait, marketing, etc. Je suis arrivé dans l'immobilier.
Et plutôt donc sur un aspect transaction, sur un aspect conseil, sur quel type de...
Oui, j'étais plutôt sur... Moi, ce qui m'intéressait, c'était le commerce, la transaction très clairement. Et en fait, quand j'ai été pris à l'époque par ce qui s'appelle Henri Charret, qui s'appelait Henri Charret, parce que malheureusement, il est décédé, qui m'a accueilli chez JLL, Johns Lang Wooten, pardon, et il m'a dit, voilà... On monte une équipe grand compte, donc on cherche les utilisateurs qui vont chercher plus de 5000 mètres carrés, et il faudra créer le fichier.
Voilà. Il y a tout à faire.
Ma mission, c'était de faire un fichier, et ça va faire un peu troisième âge, mais c'est la réalité. Moi, j'ai commencé à faire le fichier avec le bottin, les pages blanches, vous connaissiez pas, je me permets. le 3615 Euridil, donc le Minitel arrivait, c'était extraordinaire.
C'est vrai que c'est quelque chose de difficile à envisager, mais c'est une époque où il n'y a pas du tout de parc informatique, d'outils informatiques, il n'y a rien.
Donc je crée ce fichier et rapidement je me dis que pour performer, il ne faut pas être tout seul, il faut une équipe. Donc j'embauche des stagiaires, moi-même stagiaire, et on commence à faire de la prospection téléphonique. Et on arrive à créer, pour l'anecdote, on a réalisé le premier emailing de l'histoire de Johns Lang Wooten. C'est-à-dire pour la première fois, on a réussi à faire un texte. Et on changeait l'adresse.
D'accord.
Et donc, je faisais signer au négo les 200 courriers qui changeaient juste d'adresse. C'était un miracle fait par IBM à S400 à l'époque. Donc, pour revenir, c'était juste il y a 30 ans. Quand je vois aujourd'hui les outils qu'on met à la disposition des gens, c'est une révolution industrielle, même dans notre métier.
Aujourd'hui, vous avez un CRM, un CRM qui vous permet de
faire ça. On fait des cibles sur LinkedIn, ça n'a rien à voir. Donc à l'époque, c'était ça. Donc, pour revenir, à l'époque, c'était en 94, 95, il n'y a pas non plus si longtemps que ça en réalité, il y a une trentaine d'années. Donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré en termes de parcours, comme je suis arrivé à l'immobilier d'entreprise.
Et vous restez combien de temps chez JLL, Jones Lang Lutton ?
Ben en fait, à l'issue de ce stage, je suis embauché comme négociateur junior. Okay. Je marche sur un secteur, je faisais les 0,500 m² sur Nanterre, Rueil et Suresnes. C'était mon secteur. Okay. Fallait que je développe la présence de Jones Lang Lutton. Ça a plutôt très bien marché.
C'est ce qu'on appelle le croissant
ouest. Oui, c'était une partie du croissant. C'était trois villes, c'était très, très découpé. Et donc j'avais le droit à ça, parce que comme je démarrais, je ne pouvais pas monter sur la défense, parce que j'étais un petit junior, je démarrais, donc défense était réservé aux seniors, c'était le joli marché de l'ouest parisien. Donc je démarre là, ça marche plutôt bien. Au bout de 3 ans, je deviens l'adjoint de cette équipe. Et puis à un moment, j'avais besoin un peu d'un nouveau challenge, on va dire. Et puis je vois une opportunité dans l'équipe Grand Compte qui avait été créée, qui était dirigée à l'époque par Valérie Brité. Et ils cherchaient quelqu'un depuis 6 mois. Et puis je me dis, tiens, pourquoi pas moi ? Et je me rappelle comme si c'était hier, et Valérie aussi, qui est quand même l'une des personnes qui a changé, je pense, ma carrière. On était sur le trottoir rue de Friedland, on fumait notre cigarette. Hein. Puis je lui dis, bah voilà, tu cherches quelqu'un au Grand Compte, moi ça m'intéresse. Et j'avais 26 ans. Là, elle me regarde, elle me fait... J'avais été son stagiaire, donc elle me fait, pourquoi pas, c'est quand même une bonne idée. J'en parlais à Thierry Laroupon, tout le monde connaît. Ouais. Elle remonte à l'étage, elle en parle à Thierry, et Thierry dit, je trouve que c'est une très bonne idée. Et voilà comment je me retrouve au bout du bench de l'équipe des seniors 40 ans plus, on va dire, à 26 ans, pour faire des deals de plus de 5000 m².
Oui, parce qu'il faut juste expliquer que dans ces métiers, quand on est jeune, on commence effectivement par les transactions sur des petites surfaces et au fur et à mesure de l'évolution, on augmente de surface
augmente
et de secteur géographique.
Et de secteur géographique, exactement.
Pour terminer sur ce qu'on appelle QCA, donc le prime.
Alors, soit vous êtes QCA, qui est le secteur prime, on va dire, soit vous êtes Grand Compte, en fait.
Donc quartier central des affaires, plutôt le centre de Paris. Ah,
exactement.
Quoi.
Donc voilà comment je me retrouve. Et là, c'est extraordinaire. J'ai 3 ans, je fais 3 ans ça. C'est génial. Hein. Je fais toutes les grosses commercialisations à l'époque, Cœur Défense, les immeubles de Hachero, tout le développement de tous les concepts d'Hachero qu'on connaît aujourd'hui, mais qui sont devenus, maintenant, qu'on a énormément changé.
Et la Défense, qui est un jeune quartier, en plus, si je puis dire.
La Défense, Ouest, Paris, c'est extraordinaire. Et à l'issue de ça, Thierry me demande de reprendre l'équipe que j'avais quittée, qui va pas très bien, et là je deviens patron de l'équipe Ouest pendant 2 ou 3 ans à peu près.
D'accord.
Donc en gros, je suis resté 8-9 ans chez Jones Lang.
Ok. Et après, que se passe-t-il ?
Et après, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un moment où, quelque part, j'ai mes mentors qui quittent, Jones Lang Lutton, à savoir Thierry Valéry, je me retrouve là, à la tête de l'Ouest, ça fait 3 ans. 3 ans, c'est pas que je commence à avoir fait le tour, mais je me dis, j'ai envie d'autre chose. C'est un cycle. Et donc là, je suis sollicité par une société qui s'appelle à l'époque Cushman Wakefield Hill & Baker, un truc vachement simple au téléphone. Et là, j'ai le patron de l'époque qui s'appelle Thierry Juteau qui me dit « Tiens, Ludovic, je veux créer, on a développé Paris QCA et on a une équipe sur toute la région parisienne qui végète un peu. Est-ce que tu pourrais pas venir la reprendre en main ?» Et là, ce challenge me plaît énormément. Je me dis, c'est un nouvel entrant. C'est aussi une société anglo-saxonne en termes de culture, mais en termes de culture de partnership. C'est encore une des dernières boîtes où on peut être ce qu'on appelle equity partner, etc. Je trouve que ça a un sens, puis c'est un challenge qui m'intéresse. Et là, je rentre dans ce challenge, tête baissée, on va dire, en 2004.
Et là, c'est le début d'une grande aventure. Vous êtes resté très longtemps chez Cushman.
17 ans.
17 ans,
chez Cushman.
Ouais. Ça compte dans une vie professionnelle.
Ah, énorme. Ouais, c'est énorme. Déjà, ça compte à la fois dans ce que j'ai pu faire et qu'on m'a laissé faire chez Cushman, à la fois les gens que j'ai rencontrés, Thierry, qui m'a apporté énormément, notamment sur la partie équilibre vie privée, vie professionnelle, et d'arriver à gérer le management, le business, etc. Ensuite, j'ai croisé Olivier Gérard, qui a été aussi mon président, avec qui j'ai eu une très bonne relation, qui m'a laissé beaucoup d'autonomie en m'accompagnant. Et ensuite, j'ai rencontré Antoine Derville, qui m'a apporté aussi toute la partie relationnelle, la partie aussi, je dirais, prise de recul. Donc voilà, aussi un parcours est toujours émaillé, je pense, de rencontres.
C'est vrai.
Énorme.
C'est de l'humain.
Faut savoir, ouais, c'est de l'humain, c'est saisir des opportunités. C'est aussi, c'est un message que je peux passer à la jeune génération, c'est du travail. C'est-à-dire que les choses n'arrivent pas naturellement. C'est beaucoup de travail, hein. C'est des heures passées. C'est l'envie qui m'anime un peu chiant pour les équipes, c'est de remise en cause, de toujours plus. On a fait quelque chose de bien, mais demain, comment on va le faire mieux? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir un positionnement différenciant? J'étais aussi pas mal influencé par une formation que j'ai faite à l'INSEAD qui s'appelle la stratégie Blue Ocean. Voilà, qui est une stratégie particulière, qui est assez passionnante, où on se dit, voilà, on a un marché, des acteurs, des concurrents, quel positionnement on trouve, qui est attendu par des clients, mais qui ne le savent pas forcément. Et c'est un peu ce que j'ai fait à travers Cushman, où donc, après l'équipe région parisienne, à la sortie de la crise Lehman en 2009, donc, là, on me demande de reprendre la totalité de l'agence. Et c'est là, effectivement, que je prends à la direction de cette agence, où Cushman trouve un peu son identité sur le marché en transactions locatives. Et l'idée... Je rebondis à nouveau sur la stratégie Blue Ocean, parce que justement, je venais de faire cette formation. Bah, c'est de se dire, on va se faire un positionnement à mi-chemin entre les généralistes, BNP, CBRE, JLL à l'époque, qui sont des gros, hein, et puis des nouveaux entrants sur le marché, mais qui commencent à être présents, des AOS Tudley, des Parella, des stratégies Handcorp, qui deviennent des tenants très purs. Et je me dis, bah, tiens, nous, on va créer une équipe, on va être juste au milieu. On va à la fois avoir la même méthodologie que les tenants très, en termes de conseil utilisateur. Donc un conseil utilisateur très proche du Lisaptra, du Cashflow, des présentations en COMEX, etc. Vraiment de la recherche, mais en même temps avec des gens qui connaissent le marché. Donc on va venir voir au client en disant, on vous accompagne techniquement, mais on vous dit dans quel immeuble vous allez pouvoir aller. Et en fait, la coordination des deux m'a positionné un peu au milieu de toute l'équipe. Et pendant 7-8 ans, on a vécu une période assez incroyable chez Cushman, où on s'est positionné rapidement comme un des intervenants sur le marché en grande surface. On était tous les ans dans le top 3, top 4 des transactions de plus de 5000 en nombre et en volume, avec une équipe, à l'époque, j'ai jamais dépassé 30 personnes.
Et puis vous êtes dans une boîte qui est aussi en pleine croissance, il y a eu l'absorption de DTZ.
Ça arrive, après cette équipe grand compte, ouais, et là, je
tout
suis là,
coup,
je me dis, tiens,
Cushman prend une,
on est bien,
dimension,
et puis hop, il arrive un nouveau challenge, effectivement, ouais. L'acquisition par TPG qui avait acquis DTZ de Cushman Wakefield. Et là, effectivement, d'un seul coup, on se retrouve avec une société qui va être beaucoup plus généraliste.
Ouais.
Donc, je me retrouve avec des équipes où on doit cumuler à la fois la culture DTZ et la culture Cushman. Même si on est sur le même métier, en réalité, la culture est très différente. Ça a été assez, assez compliqué, d'ailleurs, en termes de culture. Pour,
ouais, c'est ça, comment on vit deux cultures qui se,
ouais,
qui
c'est,
tout d'un
c'est
coup
dur,
deviennent...
En fait.
Est-ce qu'on arrive à créer une culture commune? Est-ce qu'il y a des confrontations? Est-ce que...
Je pense que c'est très compliqué d'arriver à faire une culture commune en réalité, parce que chaque personne de chaque équipe... reste ancré sur ce qu'elle a fait et ce qu'elle a vécu les dernières années. Mm. Et même si de se dire, on cumulait des parts de marché, on trouvait ça intéressant, mais en fait, la manière de travailler n'avait rien à voir. Cushman, on était devenu assez qualitatif, avec vraiment du conseil. DTZ était plus broker dans l'âme, au quotidien. Et là, je vous assure, non, c'est plutôt un affrontement. Et les rouges et les jaunes restent les rouges et les jaunes. Hein, on peut le voir dans le sujet à la télé. Ça reste, hein, en réalité. Même si vous faites, on a fait des séminaires, on a fait du brainstorm, on a essayé de trouver une entité, ça reste quand même un peu marqué.
La réunification n'a pas fonctionné.
Elle a fonctionné, mais aussi, en fait, vous êtes obligé quelque part, les têtes les plus fortes historiques, en fait, partent. Pour résumer, parce qu'elle ne se retrouve pas forcément dans la nouvelle identité. Et je dirais que c'est à la fois l'apport 209 et un renouvellement qui vous permet de donner un nouvel élan et une nouvelle identité.
Donc 17 ans chez Cushman.
Oui.
Et puis là, tout d'un coup, nouvelle aventure.
Ouais,
remet en question.
On se remet en question. Oui, je pense que c'est
C'est ça qui s'est passé.
Ouais, c'est un ensemble d'éléments. Là, je pense qu'il y a la période du Covid. Avec là, je dirais, comment on va dire ça, un comportement, une attitude de l'actionnaire vis-à-vis globalement en termes d'économie qui est assez saignante. Hein, un fonds opportuniste américain, c'est assez, voilà, il débarque un jour, vous avez le fichier chef, vous avez la liste des gens qu'il faut sortir.
Après le confinement.
Ouais, pendant le confinement. Ils arrivent, ils disent, bon ben voilà, on va falloir baisser, on va diminuer le chiffre d'affaires par deux. Faut baisser effectif par deux. Hein. Et là, c'est assez inhumain, on va dire, comme truc. Je m'y retrouve pas forcément. Derrière la cinquantaine, faut être clair aussi. J'arrive, je me dis, tiens, 50 ans, c'est un virage à prendre, c'est peut-être maintenant. On sort du Covid, on a fait le travail qu'on devait faire, le marché repart, et là, vous avez un nouveau actionnaire qui vous dit, non, EBITDA, on recrute pas. Non. Vous dites, mais pour se redévelopper, il faut réembaucher, il faut repartir dans une dynamique. Et là, vous avez un directeur financier. Vous avez votre patron, c'est le directeur financier à Londres, qui a lui-même un patron qui est à Chicago. Pour vous dire que la France, ça représente à peu près le quart de mon ongle, et que la directive qui est faite vous a imposé. Donc là, vous n'avez plus de liberté, vous n'êtes plus entrepreneur, je ne suis plus développeur. Et là, je me dis, bon, bah voilà, il y a un nouveau virage à faire. Donc, je décide de quitter Cushman. Et j'étudie différentes pistes, dont des pistes entrepreneuriales fortes, parce que je me dis, c'est certainement le moment. Puis là, vient se présenter l'opportunité Colliers. Je suis approché par Antoine, qui a été mon président pendant 5 ans, qui me dit, bah voilà, voilà un peu le business model de Colliers. Et je recherche mon directeur général pour prendre un peu, à m'aider à développer cette marque et notamment à développer toute la partie transactionnelle.
Alors justement, c'est quoi le business model de Colliers ?
Alors, Colliers, je pense que c'est... faut revenir à l'historique. Là, je reviens des... au départ, Colliers, en fait, c'est une marque qui, au fur et à mesure, s'est développée dans le monde en rachetant énormément d'entreprises.
Une marque canadienne à la base.
Oui, c'est toujours. L'actionnariat est canadien. Le créateur a toujours un peu moins de 10% des parts. C'est coté à Toronto et au Nasdaq. C'est canadien. Ce qui veut dire aussi que la culture, elle est moins prononcée à l'ATP, l'actionnaire américain, fonds opportuniste. C'est quelque chose de différent. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est un modèle entrepreneurial. Lui, c'est un entrepreneur et en fait, il rachète des sociétés. Et sur les différences... pays où il s'implante, en fait, on rachète des entrepreneurs un peu leaders sur leur métier et il agrège l'ensemble.
Okay.
C'est ça le modèle. Et c'est ça qui m'a plu parce que ça reste entrepreneurial. Qui veut dire s'il fait ça, il conserve les managers et les associés au capital, même si je suis associé au capital de Colliers France, il les associe au capital et leur donne une certaine forme d'autonomie. Vous êtes responsable de votre entreprise, de votre P&L, dès l'instant que vous avez un équilibre financier, bien évidemment. Et ça, c'est très fondamentalement différent.
Et c'est assez malin pour impliquer les collaborateurs, en fait.
Ah bah, ça me donne... c'est plusieurs choses. Un, forcément, vous impliquez les dirigeants. Deux, je pense que vous donnez une forme d'agilité, parce qu'on décide par rapport à ce qui se passe plus sur le marché, pas par rapport
plus réactif, plus agile. Donc,
c'est pas le cours de la bourse qui voudrait, pour résumer. C'est aussi un autre élément fort, c'est que... aujourd'hui, les grandes entités se sont organisées de manière très verticale, en silo. C'est-à-dire que vous avez le capital market qui est drivé depuis Londres pour l'Europe. Vous avez le property management qui peut driver depuis la Hollande de manière verticale. Et vous n'avez plus du tout d'horizontalité. C'est-à-dire que les métiers se parlent encore moins ensemble. Et c'est exactement le modèle inverse qu'on souhaite proposer chez Colliers. Et je réponds à votre question par rapport à ça. Nous, notre business model, c'est aujourd'hui comment, devant un client, on met en face une équipe projet pluridisciplinaire. Et pas uniquement un interlocuteur qui prêche sa paroisse, son silo et son PNL. C'est une équipe projet. Je pense qu'aujourd'hui, dans la complexité, je dirais encore plus qui est en ce moment et qui arrive vraisemblablement, on a besoin de s'approcher des clients en leur proposant une vue à 360 pour les accompagner. Parce qu'il ne suffit pas juste d'envoyer un dossier à 10 investisseurs aujourd'hui pour le vendre. C'est devenu beaucoup plus complexe. Il ne suffit pas d'envoyer une sélection d'immeubles à un client pour qu'il choisisse son implantation géographique. Ça n'existe plus. Tout le monde, les clients se sont professionnalisés. Et nous aussi, on doit beaucoup être plus dans l'offre.
C'est qui vos clients, justement ?
Alors aujourd'hui, nous, on a, on va dire, deux grandes typologies de clients, hein, clairement. Tous les propriétaires. Donc quand je dis propriétaire, hein, tout ce qui est propriétaire d'immeubles, les investisseurs, donc assurances, SCPI, les fonds, les promoteurs, toute cette partie-là qui donc développe ou possède les immeubles.
Toutes surfaces confondues.
Toutes surfaces. Alors je reviendrai sur la surface, c'est là où on a un positionnement un petit peu particulier. Et les entreprises qui recherchent des locaux. Ou qui ont une réflexion sur leur schéma d'implantation.
Qui recherchent en tant que locataire ou acheteur.
Peu importe, qui recherchent des locaux. Peu importe. Après, nous, en termes de surface, sur le marché francilien, là aussi, hein, l'idée, c'est de pas d'être présent partout et d'être un généraliste, c'est d'être assez ciblé. Et nous, notre objectif, c'est plutôt d'être sur Paris et la première couronne ouest, hein, qui représente à peu près 70% du marché, et plutôt sur les surfaces au-dessus de 800 000 m². Pourquoi ce positionnement ? Parce que Pour absorber la géographie, il faut être nombreux. C'est pas la philosophie. Hein. On peut pas avoir des armées comme peut avoir mes concurrents avec 200 brokers sur le marché. Ce sera pas du tout le modèle. Et pourquoi à partir de 800 000 m2 ? Parce que je pense qu'à partir de cette surface-là, c'est des gens qui ont besoin d'un conseil, d'un service, qui attendent quelque chose. Vous avez une boîte structurée avec au moins 50-60 personnes. L'immobilier commence à être un outil industriel. Sa recherche ne se fait pas uniquement par Internet. J'ai envie de dire qu'en dessous de 500 mètres carrés, aujourd'hui, avec le développement des outils digitaux, la personne, elle est, je caricature, mais elle est le soir, hier soir, elle regarde les sites, elle trouve les locaux, elle prend des rendez-vous pour visiter. Celui qui cherche au-dessus a une démarche un peu plus... a besoin d'une démarche un peu plus qualitative, de l'entourer sur sa politique de change, de workspace, sur ses travaux, sur sa sortie de bail, sur le flux de ses salariés, demain sur son empreinte carbone.
Mais c'est 800 1000 mètres carrés, pas 800 000.
Non, pas 800 000, ça, on ne ferait pas grand-chose. Ouais.
Ça pourrait être
de 800
compliqué.
À 1000, à partir de 1000 mètres carrés, j'ai résumé. Donc, en gros, c'est 50 salariés, 50-60 salariés.
Donc, pas de petites PME, plutôt
pas
voilà,
des boîtes structurées. Pas du tout le modèle.
Vous parliez du Covid tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'immobilier d'entreprise de bureau à ce moment-là, avec un changement des usages, avec une prise de conscience des collaborateurs. Comment ça a impacté justement votre travail, les métiers de Colliers? Est-ce qu'il y a eu un réel changement? Est-ce qu'il y a eu un réel renouveau des nouvelles tendances?
Ah, clairement, ça a développé de manière très, très synthétique. Le Covid a développé le télétravail.
A changé le rapport au bureau, du coup.
A changé le rapport au bureau. Et la conséquence de cela, c'est à la fois en termes, je dirais, pour le marché de surface prise à bail, où clairement, il faut être réaliste, les entreprises aujourd'hui ont besoin de 20 à 30% de moins de surface, parce qu'elles ont moins de collaborateurs au bureau en permanence, parce qu'elles ont accordé quelques jours de télétravail.
Et ça va durer ?
Ça, je vais finir sur la première question. Ça, et aujourd'hui, la problématique, c'est plutôt, pour beaucoup d'entreprises, c'est de faire revenir les collaborateurs au travail. Ouais. À la question, est-ce que ça va durer ? Je pense qu'on va continuer sur une notion de télétravail.
C'est un acquis, ça.
Oui, la vraie question, c'est est-ce qu'on va continuer...
Parce qu'avant 2020, c'était un gros mot, télétravail.
Oui. Mais là, c'est un acquis, je dirais, entériné pour les travailleurs. J'entends aujourd'hui quand même des entreprises qui s'interrogent sur la pérennité du télétravail, en tout cas de 2-3 jours. Moi, je n'ai pas le sentiment, et si je me mets en position de patron d'une entreprise, il est vrai que 2-3 jours de télétravail, ça a quand même des conséquences sur la synergie, sur la productivité collective, sur ce qu'on appelle le chaînage ou le cross-selling. Ça a quand même. Je pense qu'il y a certains métiers qui sont assez facilement en télétravail. Les métiers où vous êtes sur un ordinateur, où vous avez une tâche à réaliser. Dès l'instant que vous avez un métier qui demande un assemblage de compétences, je trouve ça plus compliqué. Et comme quelque part, le modèle notamment, je trouve que nous, on prêche, qui est l'équipe projet, donc l'échange de compétences, il y a un moment où on peut se poser effectivement la question.
Donc il n'y a pas d'organisation à la carte, il faut faire une organisation générale.
Oui, je pense que c'est aussi en fonction du métier de chacun, en fonction aussi de ce que chacun... dessine dans le télétravail. Moi, j'ai envie de dire, ça fait 30 ans que je fais du télétravail. Hein. Si j'avais rendez-vous à 10h30 dans Paris, je n'avais pas besoin de passer à 9h à mon bureau. Enfin, c'est ça la notion. Est-ce que le télétravail, c'est je m'en vais vendredi, le jeudi soir, je reviens mardi matin parce que j'ai ma maison à la campagne. C'est pas la même chose.
Non.
C'est deux choses différentes.
Il y en a même qui ont déménagé, qui ont carrément changé de logement, qui ont quitté Paris. Vous, du coup, vos équipes, alors c'est quoi le juste milieu? Vous dites que 3 jours, c'est trop. Est-ce qu'un jour, c'est bien?
Aujourd'hui, nous, on accorde 2 jours de télétravail.
D'accord.
Ça, c'est aujourd'hui ce qu'on a proposé et en accord avec le manager. Et quand on dit 2 jours de télétravail, c'est vous êtes chez vous, à proximité aussi du bureau, s'il y a besoin de venir. Après, je dirais, on a quand même tellement de métiers différents qu'il y a des métiers où ça s'exprime moins. Les personnes qui font des travaux, qui vont en chantier, forcément...
Bien sûr, c'est pas possible.
Je dirais que l'activité commerciale, brokerage, il n'y a pas énormément de télétravail. Parce qu'à un moment, c'est la communication sur le plateau, c'est les visites avec les clients, c'est la disponibilité pour le client.
De toute façon, ce sont des gens qui, par définition, sont en mouvement permanent auprès de leurs clients.
Là aussi, télétravail, oui, d'accord. Après, vous avez des métiers, peut-être plus dans le conseil, vous, quand vous faites des études, on a beaucoup de choses. On a des chercheurs, on a des data scientists, etc. Je comprends, il peut être chez lui beaucoup plus tranquille, on va dire. Après, c'est à nous aussi de créer les moments de rencontre. On a mis un premier étage, un peu de coworking où les gens peuvent venir. Vous avez une salle silence où vous pouvez vous isoler. On a fait aussi quelque chose d'assez différent et je dirais d'avant-gardiste, et je pense qu'il va peut-être se développer. On a décidé de fermer nos locaux le vendredi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société Colliers, le vendredi, est fermée.
Donc c'est télétravail pour tout le monde.
Voilà. Donc déjà, ça a rendu un service au manager, c'est qu'il y a une journée qui est imposée, c'est le vendredi. par définition.
Donc, c'est plutôt pratique. Sympa, parce que d'autres boîtes, c'est l'inverse. Ouais, hein, sauf le vendredi. Ouais.
Pourquoi on a fait ça? Parce que, on s'est rendu compte qu'on avait 15% de l'effectif le vendredi. Ça, je le vois quand on visite des locaux ou en site occupé, il n'y a pas grand monde le vendredi. Donc on s'est dit, pourquoi on allume un immeuble avec la clim, le chauffage, le vendredi, alors qu'on a 15% de l'effectif? L'intérêt, on a une politique RSE qui est assez forte. Nous, on a un enjeu d'être net carbone zéro en 2030. On a réduit notre empreinte carbone de 35% en un an, notamment en fermant le vendredi. Donc on s'est dit, on va fermer le vendredi, mais on va donner aux collaborateurs plusieurs sujets. La première chose, ils ont bien sûr la possibilité d'aller chez leur client. La première chose, ils ont notamment la possibilité d'avoir accès à une application qui leur permet de réserver des tiers-lieux. Donc, il s'est créé une communauté Colliers dans les tiers-lieux, où les gens se retrouvent à proximité de leur domicile.
Vous avez des partenariats en particulier avec certains.
Oui, c'est une application qui vous permet de réserver autant du Regus, du WeWork, que du Morning, etc. Tout.
Et ça, c'est pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler de chez eux, en fait.
Absolument.
C'est ça.
Et qui ont envie de se retrouver. Il y a aussi ça. Donc, chez vous. En tiers-lieu et chez les clients. Donc déjà, vous avez une panoplie le vendredi qui est intéressante. Et ce qu'on a observé qui était très...
Ça veut dire qu'on n'abandonne pas le collaborateur. Ce n'est pas parce que le bureau est fermé qu'on l'abandonne. On l'accompagne quand même.
Il a la possibilité de se retrouver ensemble à un endroit de son choix. Il le choisit en fonction de sa localisation du jour ou des rendez-vous qu'il a, etc. Ouais. Moi, par exemple, là, je vous quitte. Je vais sur Gare de Lyon. J'ai réservé un tiers-lieu Gare de Lyon. Parce qu'ensuite, j'ai un déjeuner là et après, je vais revenir. Voilà, et on s'équipe parce qu'aujourd'hui, on est vendredi. Merci de m'accueillir, je n'avais pas de bureau. Comme quoi, on trouve des solutions.
On en a ici.
voilà, oui, en plus. Donc, c'est ça l'idée. Après, ça a eu plusieurs effets assez intéressants. Premièrement, on a augmenté énormément, plus de 20% la présence les 4 autres jours. Les personnes se sont dit, je ne peux plus le vendredi. Il faut que je sois là les autres jours. Il faut que je sois avec mes collègues. Ça a été assez étonnant. Qu'on a vraiment intensifié la présence les 4 autres jours. Et pour l'anecdote, c'est assez drôle aussi, c'est les personnes qui ont été le plus inquiètes de ce changement, et ben, contrairement à ce que tout le monde aurait pu penser, c'est la jeune génération.
Okay.
Ceux qui, même lors de l'entretien d'embauche, qui disent, je vous préviens, c'est
définissez,
pas chez vous.
Définissez jeune génération.
Oui, c'est une bonne question. Les moins de 30, moins de 25.
Moins de 25, donc nous, ça y est, on est plus jeunes.
Ah oui, nous, on est entre les deux.
Désolé.
On va faire juste, on continuera après, on va faire juste une courte pause musicale avec votre musique. Après, on continuera à parler des nouvelles tendances concernant le travail. Et puis aussi, vous avez évoqué l'impact RSE, votre côté RSE, on va en parler aussi. Et puis, on parlera aussi des investisseurs. Votre premier choix, c'est Scorpion. On écoute tout de suite et on revient juste après.
D'accord, merci. We'll be right back.
Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
Pourquoi ? Écoutez, très simplement, c'est sur cette musique-là, j'ai rencontré ma femme. Il y a un peu plus de 33 ans. Et à la fois, forcément, ça me rappelle ce souvenir, même s'il y a 33 ans, je me rappelle encore qu'un peu, mais pas complètement. Mais j'ai trouvé que ce morceau-là, il est important parce que c'est une personne essentielle dans ma vie. Et je trouvais que quand vous avez dit deux morceaux de musique préférés, au-delà de préférés, que je disais à Grégoire, des morceaux qui ont une signification forte pour moi. Mmh. Et j'ai eu la chance, il y a 33 ans, de rencontrer ma femme qui m'accompagne et qui m'a très certainement permis de faire cette carrière et d'avoir cet épanouissement personnel que j'ai aujourd'hui.
Oui, tout à l'heure, quand vous parliez de l'équilibre personnel-professionnel, c'est nécessaire pour avoir ce genre de carrière ?
Ah, moi, je pense que c'est indispensable. C'est-à-dire, vous êtes... En fait, vous êtes pris dans un tourbillon entre tout ce que vous avez à faire. Vous êtes pris aussi dans un tourbillon financier, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est un métier où on gagne quand même très bien sa vie. En n'ayant pas fait des études exceptionnelles et sans sauver la vie de grand monde. Vous êtes quand même... Donc rapidement, vous pouvez avoir des gens qui commencent à se dire « Ah ben voilà, je pourrais m'acheter ça, etc. » et qui perdent un peu le sens de la réalité. Ça, c'est la première chose. Vous fréquentez aussi un milieu plutôt socialement aisé, avec des gens aussi, des investisseurs, etc. Donc, à un moment, vous pouvez perdre, je trouve, la réalité des choses, la réalité des valeurs des choses, et que vous pouvez partir dans votre vie privée sur d'autres horizons qui n'étaient pas celui que je souhaitais. Et ma femme a souvent été un peu mon garde-fou de choses que je pouvais voir ou de choses qu'on se demandait en restant ancré sur les valeurs personnelles, familiales, de reconnaissance, de partage, de bienveillance, d'accompagnement des gens, etc. Et ça m'a vraiment permis un équilibre assurément, c'est une certitude.
Et quand on est à des postes de management, de direction, c'est peut-être bien aussi de confronter ses idées avec la personne avec qui on fait équipe dans la vie
On parle très peu de mon métier.
Okay.
Elle fait pas le même métier, elle.
Pas du tout. Et elle trouve qu'on est des ovnis un peu dans la manière de tout ça.
Mais du coup, c'est bien
passe.
Parce que ça vous remet les pieds sur terre.
Moi, j'arrive chez moi. En plus, comme je disais à Grégoire, j'habite à 30 km de Paris à la campagne. Entre ma semaine, ma soirée et mon week-end, je suis dans deux mondes totalement différents.
Vous coupez.
Ah, complètement.
Et alors, tout à l'heure, juste, j'aimerais revenir quand vous vous adressiez aux nouvelles générations. Il faut travailler. C'est quoi travailler ? À quel rythme vous travailliez pour en arriver là ? Est-ce que c'était du 7 sur 7 ? Est-ce qu'à un moment, il faut se sacrifier ?
Non. À moi, à cette époque-là, en gros, c'est toujours pareil. Hein. C'est 5 jours à la semaine, 8-8, quoi, pour résumer.
D'accord.
Après, c'est un choix personnel. Je dirais, quand je dis travailler... Les gens le prennent comme j'ai des devoirs à faire, faut que je travaille. C'est pas ça travailler.
Il y a un côté sacrifice en fait quand on dit
travailler. C'est pas le bon terme.
C'est
s'engager. Plutôt, faut s'investir. Ouais. Faut investir son temps, faut investir son attention, faut être créatif, faut être présent, faut être aussi un peu malin, sentir les opportunités, savoir prioriser, c'est-à-dire concentrer son temps, d'énergie et de travail sur les sujets qui sont les plus intéressants. Moi, j'ai eu la chance d'être coaché depuis une quinzaine d'années par la même personne d'ailleurs qui m'a accompagné et qui m'a aussi beaucoup apporté. C'est toujours de se dire, voilà, dans une journée, on ne peut pas être 10 heures au taquet, c'est impossible. Mmh. La vraie question de fond, c'est quand est-ce que je suis un peu en roue libre, parce que la situation le permet, quand est-ce que je suis un peu attentionné, et quelles sont les 2 heures où là, par contre, je vais être très exigeant envers moi-même et je vais vraiment m'investir. Et là, je vais préparer ce rendez-vous et je vais arriver, je vais être prêt, je vais être... moi, c'est comme ça que je suis animé, je vais être le meilleur.
Donc faire du 80-20, en fait.
Oui, alors je ne sais pas si 80-20 ou 70-30 en fonction des journées. Mais je pense que c'est ça, c'est être investi, je pense jamais satisfaire de quelque chose qui a été obtenu et se dire, ok, je l'ai eu de cette manière-là, comment demain on peut l'avoir différemment. Être aussi en capacité de prendre du recul, je reviens sur ce recul de comment mon monde environnant change, comment mes clients changent. Et après, moi, en tant que manager, comment mes collaborateurs changent. Vous imaginez, entre ceux que vous, il y a 30 ans qu'on manageait et ceux qu'on manage aujourd'hui, c'est une révolution. Il y a 3 générations, Y, Donc, comment on s'adapte à ça? Je pense que c'est ça. C'est, quand je dis travail, je vais retirer ce mot-là, c'est recul, attention et investissement sur les moments.
Et l'investissement, comment est-ce qu'on l'aborde d'un point de vue managérial avec cette génération Z, justement, qui va arriver là, sur le marché du travail et qu'on annonce être encore plus qu'une révolution, une disruption, un modèle qui va totalement changer. Et comment est-ce que vous, en tant que manager, que leader, comment est-ce que vous l'abordez ?
C'est pas simple. Parce que forcément, on a tendance à se poser sur nos acquis ou notre expérience. Le problème, c'est qu'on vit de nos expériences et on considère qu'elles sont là, elles sont bonnes. Mais en réalité, quand tout change autour, votre expérience, elle a un peu moins... Je ne dirais pas qu'elle est utile. Mais les aborder, je pense qu'ils vont aborder la relation avec l'entreprise de manière beaucoup moins prégnante, dans le sens où nous, quand on commençait, à mon époque, on arrivait, on se disait, on va faire carrière dans cette entreprise. Eux, ils ne vont pas faire carrière dans une entreprise, ils vont faire carrière dans ce qui leur plaît en termes de métier, d'environnement, où ils vont sentir qu'ils vont avoir un équilibre entre leur vie pro et leur professionnelle, vie professionnelle, et un épanouissement personnel, et que ça leur plaît. Et surtout que là où ils sont, on partage leurs valeurs. On partage leurs valeurs à la fois, on parlait un peu de RSE, leurs valeurs en termes de RSE, leurs valeurs où ça leur donne un sens. Ils viennent au travail en se disant, je ne viens pas là pour gagner ma paie, pour payer mon loyer, mon crédit. Enfin, mon crédit, pour payer mon crédit et me nourrir. Non, je viens là au travail pour que ça me donne l'opportunité de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire aussi à l'extérieur. Donc, ce n'est pas du tout le même rapport. Donc, moi, en tant que manager, c'est quoi? C'est un, leur donner l'opportunité de s'épanouir. Je pense que c'est ça le sujet. S'ils ont envie de changer de métier, qu'ils changent de métier. S'ils ont envie de se former, qu'ils changent aussi, qu'ils puissent avoir accès à le former. Qu'ils retrouvent une entreprise dans laquelle, je pense, on donne chez Colliers un sens. Je reviens, on n'est pas une grosse entreprise. On veut de la bienveillance, on veut de la partage de connaissances, on veut de l'équipe projet. Donc ça, je pense qu'on nourrit la nouvelle génération à travers ça énormément. Après, il y a quand même des postulats de départ où je pense que pour que ça fonctionne, en tout cas les gens qu'on accueille chez Colliers, il faut quand même avoir un minimum de valeurs. Et ces valeurs, c'est un, le respect de l'autre. Deux, il y a quand même une notion, je dirais, un peu de méritocratie et que quelque part, ceux qui vont faire mieux que les autres à leur manière, forcément, seront plus récompensés que ceux qui font moins bien. Et ça, c'est dans une société, c'est de cette manière-là. On est une société aussi à une volonté capitalistique, avec une volonté de gagner de l'argent et de faire gagner de l'argent aux gens et aussi à notre actionnaire. Donc voilà, c'est cet environnement-là sur lequel je pense qu'il est important. Partageons des valeurs, donnons la possibilité à cette génération de s'exprimer, comme je disais au moment, de se former, de venir à des temps où travailler, pas, vous voyez, ils ne travaillent pas la matinée, mais par contre, à 22h, vous recevez l'étude ou l'analyse qui est la plus pertinente qui soit. Moi, ça ne me pose aucun problème. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas avoir parfois une génération qui, éduquée, chouchoutée, choyée, arrive au travail en pensant qu'on va être comme les parents, à leur donner tout ce qu'ils veulent, sans ranger ta chambre et sans être à l'heure pour manger. Je suis désolé, mais là, on a changé de rapport. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on attend aussi de leur part un investissement, une forme de présence, une forme de... Voilà. Et c'est là où parfois, quand on accueille des jeunes générations, parfois, on se dit, bon...
Ouais, le truc ne tombe pas
comme
travail.
Ça. Hein. C'est-à-dire, on est dans un métier commercial, en pleine crise en ce moment, on en parlera tout à l'heure. Faut sortir dans la rue, il faut quand même aller un minimum se battre et aller chercher le client en essayant d'être au moment du rendez-vous pertinent, préparant ce rendez-vous pour être pro, quoi.
Alors justement, l'actualité du secteur.
Eh oui, l'actualité du secteur. Alors... Il fallait bien qu'on y arrive.
Bah oui, fallait bien. On va terminer avec ça. C'est vrai que les temps sont durs. Comment ça se traduit pour vous au quotidien, pour les équipes?
Alors, on va pas bouder notre plaisir. Pour l'instant, ça se traduit extrêmement bien pour Colliers. On a une progression entre 2021 et 2022 de 45% à peu près de notre chiffre d'affaires. Et là, sur entre 2022 et 2023, on devrait afficher une progression d'environ entre 12 et 15% de chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire qu'on continue dans notre élan, même si forcément la crise a un impact et le ralentit.
En France ou à l'international?
En France. Je parle vraiment en France. Donc on est très heureux d'aujourd'hui de l'exercice 2023. Si je parle du pôle transaction, grosso modo, entre 2021 et 2022, on a doublé notre chiffre d'affaires sur le pôle transaction. Et on fait une très belle année en pôle transaction, que ce soit à l'investissement dans un marché un peu particulier ou que ce soit en transaction locative. Je pense qu'en transaction locative, on se positionne à peu près en troisième position du marché. Et à l'investissement, aujourd'hui, on représente à peu près 10% de part de marché sur le volume global. On se positionne aussi, là, maintenant, dans les 3-4 intervenants du marché de l'investissement. Donc, on est vraiment très contents. Mais cependant, je ne sais pas si le pire arrive, mais en tout cas, notre environnement change. Et je reviens, nous, on doit être agile. Demain, l'investisseur, de quoi il a besoin, selon le type d'investisseur. Et demain, l'utilisateur, dans un monde un peu différent, de quoi il a besoin. Et c'est à nous de réfléchir et d'apporter la solution à travers la compétence qu'on a chez Colliers, ce qui est vraiment l'agence très forte en termes de conseils, des data scientists, des chercheurs, des gens qui font du workspace, du change, qui sont en avance sur le sujet, tout ce qui est RSE, carbone, etc. Mmh. On est quand même très pointu sur ces sujets-là. Et je pense que c'est ce qui va nous aider à apporter à nos clients dans cette, un peu cette tempête et cette inquiétude, une sérénité en étant à leur côté.
Là, on est dans un environnement de taux qui remonte, hein, bon, sauf, bon, c'est vrai que depuis hier, la BCE a décidé de ne pas les demander, de le maintenir. Qu'est-ce que ça change au niveau des investisseurs pour beaucoup de classes d'actifs? De nombreux sont dans l'attentisme. Est-ce que c'est le cas pour l'immobilier de bureau?
Oui, je pense, je ne sais pas si l'attentisme est le terme. Si, quand même, c'est l'attentisme. En fait, ce qui s'est passé, de manière simple, on l'a dit plusieurs fois, c'est que le coût de la dette a énormément augmenté en très peu de temps. Aujourd'hui, vous avez un taux de swap à 5 ans qui doit être autour des 3,50 aujourd'hui. En gros, vous empruntez pour 5%. Mmh. Ce qui veut dire que mécaniquement, si vous avez recours à la dette, bah, acheter un taux à moins de 5, ça devient compliqué. Mmh. Ce qui veut dire que d'un seul coup, tout le marché qui était à moins de 5% est un marché qui, en face de lui, ne peut avoir que des acteurs qui ont de la liquidité et donc du cash. Donc vous diminuez d'un seul coup. En même temps, ça, c'est le premier constat. Le deuxième sujet... C'est le sujet des collecteurs et des retailers. Aujourd'hui, du fait que vous trouvez des placements à travers l'OAT à 10 ans qui est à 3,50, 3,60, des placements qui vous rapportent 3,5 ou 4, quand vous êtes un particulier, pourquoi vous allez vous positionner dans des SCPI dans le cadre de vos assurances, etc., qui vous rapportaient un peu moins de 4? Ça veut dire que tous les collecteurs qui rapportaient un peu moins de 4, 4,5, ont plus de collecte. Voire on la décollecte parce que les gens sont inquiets par rapport au métier de l'immobilier, ont envie de placer ailleurs, plus sécurisé, plus sécurisant. Parce que le monde anxiogène, qu'est-ce que fait le Français, hein, il épargne dans du sécuritaire. Mmh. Donc ils sont plutôt en décollecte. Les seules SCPI qui tournent encore, c'est celles qui rapportaient plus de 5% parce que là, un vrai flux. Donc là, elles y restent. Vous avez ce marché-là. À côté de ça, vous avez en même temps forcément une dépréciation de l'immeuble, hein. Forcément, quand vous avez une dette plus forte, bah, l'immeuble baisse en termes de valeur. Aujourd'hui, vous avez les expertises au fur et à mesure, les valeurs baissent. Ce qui veut dire que vous avez notamment pour les assureurs un problème de bilan, d'équilibre dans leur bilan. Donc eux aussi, ils vont être déséquilibrés, donc ils ne vont pas pouvoir investir dans l'immobilier. Et puis aussi, ils se disent, bah, au lieu d'acheter dans l'immobilier, je vais acheter dans le marché à terme, dans les actions.
Quand c'est une baisse de valeur, c'est une baisse de quel ordre concernant les immeubles?
Alors ça, c'est une question trop large. En fait, ça dépend vraiment des secteurs.
Des villes,
Ça dépend de l'immeuble. Aujourd'hui, en plus, ça devient de plus en plus sélectif, hein, parce que vous avez le secteur géographique, vous avez qui fait, est-ce qu'il y a une dynamique tertiaire ou pas. Là, on vient au Covid, mais le Covid aussi a un énorme effet sur, on va dire, un peu le mais recentrage visage, dans Paris. Hein. Mmh. Ça veut dire que des secteurs deviennent beaucoup plus difficiles, hein, comme le Nord, l'Est, etc. Donc la position géographique, vous avez l'immeuble, ses qualités techniques intrinsèques, mais vous avez aussi sa capacité à passer les enjeux RSE dans les années à venir. Ça vous change la valeur. Mais je dirais que c'est des baisses aujourd'hui qui peuvent aller de 10 à 20%, voire à 25%. Oui. Je pense même qu'il y a certains immeubles, tout à fait... Clairement, qui aujourd'hui, en termes, en bureaux, n'ont plus de valeur. Parce qu'ils sont dans des secteurs géographiques dans lesquels il n'y aura plus demain d'entreprises qui iront s'installer.
Par exemple ?
Alors, je pense que dès l'instant que vous vous éloignez, que vous êtes sur des secteurs, que ce soit à l'ouest, à l'est, vous êtes après la première couronne, dès l'instant que vous avez plus de transport en commun, que vous avez un immeuble qui n'a pas de caractéristiques ESG prégnantes, qui est dans un environnement dans lequel il n'y a pas de service, vous avez un immeuble de bureau qui a été construit au milieu d'une zone industrielle, par exemple, un exemple, il n'y a plus de valeur bureau. Hein.
Donc les grands
la
campus,
valeur, c'est le prix du foncier.
Les grands campus style Saint-Denis, c'est fini?
Aujourd'hui, ils sont occupés, donc je ne vais pas dire qu'ils sont finis, mais c'est vrai que si demain, vous avez 100 000 mètres carrés de campus SFR, à Saint-Denis qui se libère...
Qui est-ce qui va y aller?
Qui va y aller? Ça, c'est une vraie, vraie question.
Ouais. Après, il y a le Grand Paris. C'est quand même...
Oui, mais c'est vrai que le Grand Paris, je dirais, il a tendance à améliorer les transports en commun de certaines zones, mais qui étaient aujourd'hui des zones peu tertiaires, en réalité. Quand on va regarder le Grand Paris et les gares qui arrivent, ce n'est pas des zones très tertiaires autour, hein. C'est pas parce que d'un seul coup vous décidez de mettre un RER ou un métro à 40 minutes ou à 30 minutes du centre de Paris que vous créez un environnement tertiaire avec des bureaux. Il y a que les maires qui pensent qu'ils vont développer un marché tertiaire, hein, ce qui fait qu'ils résistent pour la transformation. Ouais. Mais c'est pas une réalité. Quand vous voyez aujourd'hui le mouvement des entreprises, il est je reviens dans Paris. Pourquoi? Je reviens, génération. télétravail, génération, voilà, ils n'ont pas envie aujourd'hui, et eux et nous non plus d'ailleurs, enfin plus personne n'a envie de se faire une heure, un quart de transport en commun. Ouais. Moi, je voyais mon père et ma mère qui le faisait tout le temps. Aujourd'hui, je ne l'imagine même pas. Mmh. Alors, quand je vois mon fils de 22 ans, lui, il me dit, moi, à plus de 10 minutes de la maison, ce ne sera pas possible. Quoi.
Tout ça, il n'y a qu'à regarder le taux de vacances historique à La Défense, par exemple, ou les zones comme ça, et voilà, on comprend que...
Oui, encore La Défense. Alors ça, je me permets, Grégoire, de vraiment nuancer le sujet, parce que le taux de vacances, c'est le mètre carré vide par rapport au stock. Ce qu'il faut voir à La Défense, c'est quand il y a une tour qui arrive, elle fait 60 000. Hein. Ouais. Dans Paris, donc pour faire trop. 60 000, il faut 10 immeubles de 6 000. Ouais. C'est à peu près ce qui arrive une fois par an, dans l'année. Donc c'est là aussi l'effet taux de vacances à La Défense, c'est lié aux volumes qui sont livrés, alors que vous avez un marché aujourd'hui à La Défense qui se porte plutôt bien. Hein. C'est le deuxième marché en termes de dynamique après Paris. Parce que La Défense a un avantage, c'est ses transports en commun.
Ouais.
La Défense, c'est incroyable. Vous y allez en métro, en tram, en SNCF, en RER, et demain avec EOL. Je vous rappelle que La Défense, ça va vous mettre à 8 minutes de Saint-Lazare. Mmh. 8 minutes de Saint-Lazare. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous quittez, vous donnez, en un quart d'heure, vous êtes au milieu de votre troquet à la brasserie à Saint-Lazare. Et je pense qu'aussi, La Défense a fait un gros travail à travers toute la partie de commerce, de restauration qu'ils ont mis en œuvre.
Ça devient, l'université aussi.
L'université. Mmh. Moi, je trouve que c'est un endroit hyper sympa. Je suis assez fan de La Défense.
Il y a de l'avenir pour La Défense.
Ah, je pense qu'aujourd'hui, elle essaye en tout cas de proposer... Oui. Un, des immeubles de plus en plus RSE. Deux, un environnement avec des services. Trois, une connectivité avec Paris sans commune mesure.
C'est intéressant,
et
ça,
une connectivité avec la première couronne. Hein. Ouais. Alors aujourd'hui, quand vous habitez pour venir bosser à La Défense en transport, c'est quand même c'est l'endroit le plus pratique. Hein.
Ouais.
Enfin, il faut être très clair. Quand vous venez de l'Ouest, hein, j'entends bien sûr de toute la périphérie Ouest, c'est quand même le plus pratique. Ouais. Donc je pense que, non, La Défense, je ne suis pas... L'enjeu de La Défense, c'est comment vous faites dans une entreprise, quand vous avez une tour avec différents niveaux, comment vous faites revenir les collaborateurs en leur offrant un quotidien sympathique alors qu'ils ont l'impression d'être enfermés dans une cage IGH. Quoi. Ouais. C'est ça l'enjeu, en fait.
L'émission touche à sa fin. On va se quitter, Ludovic Delez. Donc je rappelle que vous êtes directeur général de Colliers France. Merci beaucoup d'avoir joué le
jeu. Merci à vous.
On va se quitter avec votre dernière musique, Grégoire.
Oui, tout à fait. Une musique qui a une certaine importance pour vous.
Pareil. Deux sujets. J'adore le saxophone.
Ouais.
Donc vous allez entendre. Alors c'est pas. J'adore le saxo, notamment sur son côté assez. Qui exprime pas mal la mélancolie, etc., même si c'est pas cette chanson. Donc là, j'ai mis cette chanson, c'est une chanson avec mes amis que j'ai depuis plus de 30 ans. On danse souvent tous ensemble sur cette musique en fin de soirée.
Aussi.
C'est un peu notre musique à nous, quoi. Voilà, donc elle a cet aspect amical très prononcé aussi.
Ok, One Day.
Et bien voilà pour le Mac de l'Imo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très vite sur Radio Imo. I have a dream that one day on the red hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will make me able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream one day.
Matinale info et rencontres dédiées à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.